Je vous souhaite donc la bienvenue dans cette librairie qui, d'après ce que j'ai compris, n'étant pas bordelais, est une institution, la Maison Mola. Et vous comprendrez bien que je suis à la fois heureux et honoré de pouvoir vous présenter mon livre, L'Allemand qui parie sur la France. Vous me direz peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'Allemands, peut-être. Le titre a été fait par mon épouse. Donc ce que je vous propose, c'est que je me présente rapidement, qu'après je vous parle un peu de l'origine du livre, de ses principales recommandations, car c'est un livre qui est plus propositionnel qu'analytique, qu'après je vous donne quelques exemples concrets de ce qu'on pourrait faire dans le cadre d'un cas d'école, avec une petite parenthèse sur les élections de 2017. Vous avez devant vous un Allemand, berlinois, de 69 ans, hélas, qui vit en France depuis 1974, donc ça fait plus de 40 ans, et qui, à Berlin, a rencontré Hubert Védrine quand il était au Collège français, moi, et lui au Club UNESCO de Bois-Colombes, ce qui a fait que mon livre a une préface Hubert Védrine, ce qui le rend particulièrement sérieux et un peu plus connu. Sur cette base-là, j'ai passé toute ma jeunesse à Berlin, fils unique, et professionnellement, quand j'ai rejoint le cabinet McKinsey, un cabinet de conseil qui spécialisait dans les stratégies des grands groupes dans le monde et dans leur organisation, en 1974, je me suis installé à Paris, et depuis j'y vis avec mon épouse et quatre enfants. Ce livre n'est pas un livre qui dit quelles réformes il faut faire en France. C'est un livre qui brasse les idées de droite ou de gauche, sont très nombreux. C'est un livre qui, plutôt que de dire ce qu'il faudrait faire pour la France, tâche de proposer une méthodologie. Comment, quelles que soient les réformes qu'on veut mettre en œuvre, on augmente sensiblement les chances de les réussir. Il est clair, il y a beaucoup d'idées, tout le monde sait à peu près ce qu'il faudrait faire, alors on peut le faire un peu plus comme ci, comme ça, en fonction de sa sensibilité politique, mais malheureusement, au cours des dernières 10, 15, 20 ans en France, il y a eu très peu de réformes profondes, et donc la question se pose beaucoup plus, comment faire pour réussir des réformes en France. C'est un livre qui a une longue partie méthodologique, assez facile à lire, car comment un homme qui est issu de l'entreprise, ce qui est mon cas, peut-il donner des conseils à des hommes politiques ? Quand, ce qui est vrai, une dizaine de fois, j'ai pris en main en tant que dirigeant des entreprises en crise, les situations, quel que soit le secteur industriel, que ce soit de l'agroalimentaire, que ce soit des sièges automobiles, que ce soit du papier, du verre, que ce soit plus tard des produits plus technologiques chez Bull ou chez Getronix, la situation est toujours un peu pareille. Les clients sont très nerveux, les fournisseurs espèrent être payés, le personnel est très inquiet parce qu'on est en général le deuxième ou le troisième ou le quatrième dirigeant en peu de temps, les syndicats sont crispés, et donc beaucoup de gens disent on est dans la crise, on ne sait pas très bien comment s'en sortir. Et quand vous avez fait ça avec certains succès de 100%, mais on va dire un succès de 90%, une dizaines de fois directement en tant que patron et presque une centaine de fois indirectement en tant que patron d'un cabinet qui détachait des hommes expérimentés dans des situations un peu similaires et que j'animais, vous développez forcément une méthodologie. Surtout si à chaque fois vous êtes mesuré sur le résultat et que vous voulez vraiment aboutir à résoudre la crise de cette entreprise. Alors bien sûr, un pays n'est pas une entreprise, mais comme vous allez le voir, certaines de ces règles méritent d'être appliquées à un pays, en les adaptant, en les modulant. J'espère que, et c'est ça ce que j'aurais dit également à M. Juppé, si c'est lui qui emportait les prochaines élections, il retienne quelques-unes de ses idées pour augmenter donc les chances, les possibilités de réussir ces réformes. Alors, qu'est-ce que c'est alors cette méthodologie? Vous trouverez 15 petits chapitres dans lesquels, à chaque fois, construit de la même manière, quand on arrive dans l'entreprise, voilà ce qu'on ferait, et si on le transpose à un pays comme la France, qu'il faudrait faire. Alors, ça commence bien sûr avec une vision à long terme. Quand vous arrivez dans l'entreprise, même s'il faut être très rapide, car la crise fait que vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous retourner et pour vous organiser, il faut forcément retenir dans une entreprise un projet à 15 ou à 20 ans. Aujourd'hui, quand vous discutez en France, on n'a pas aujourd'hui de projet politique à 15 ou 20 ans. On ne sait pas quelle sera la France dans laquelle les Français aimeraient vivre d'ici 15 ou 20 ans. Vous allez me dire, c'est normal, parce qu'on vit avec des quinquennats, chacun veut être réélu, et donc les projets sont généralement beaucoup plus court-termistes. Mais il est évident, pour commencer, dans une entreprise, vous ne pouvez pas faire autrement en disant quelles sont ses véritables forces, parce qu'il faut capitaliser sur la force plutôt que ses faiblesses, et où est-ce qu'on veut être dans une dizaine ou une quinzaine d'années. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout ça mettre en chiffres, mais il faut avoir une vision. Derrière cette vision, il faut mettre un programme d'action. Dans une entreprise, il est en général pour 2-3 ans. Dans un pays, c'est un programme politique. Tout le monde dit qu'il a un programme, il y a relativement peu de programmes, et surtout, dès que quelqu'un est élu en France, il oublie son programme, il pense accessoirement, mais se laisse plutôt guider par les sondages et d'autres contraintes ou opportunités. Donc, deuxième obligation, il faut avoir un programme. Dans une entreprise, un programme d'action. Dans le cadre de ce programme, et c'est probablement une des mesures les plus importantes, il faut avoir des priorités. Comment choisir des priorités? Car il est clair, on ne peut pas faire 40, 50, 60 choses en même temps. L'intérêt de certaines mesures est très différent en fonction du contenu et des conditions de mise en œuvre. Je propose dans le livre une matrice, ça c'est le côté consultant, qui classe toutes les idées, et je parlerai après d'un exemple concret, en fonction de l'impact qu'ils ont, un impact par exemple sur le chômage, la réduction du chômage, fort, moyen ou faible, et la difficulté de mise en œuvre qui l'accompagne, difficulté en termes de temps, en termes d'efforts qu'il faut faire, etc. Très difficile, moyennement difficile et peu difficile. Bien sûr, tout le monde aimerait lancer des mesures qui ont un impact très fort et qui sont très faciles à faire. Ça n'existe pas. Par contre, il y a des gens qui s'attardent peut-être un peu trop à lancer des choses qui n'ont presque aucun impact, mais qui sont très difficiles à faire. Ma préconisation est claire, il faut se limiter à 5-6 mesures au départ, par domaine. Dans le chômage, on va en reparler, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines. Il faut les choisir en prenant 2 ou 3 qui ont certes un impact relativement moyen, mais qui sont faciles à faire, en commençant par ça. Parce que c'est là-dessus, avec des résultats immédiats, que vous allez avoir une dynamique qui va s'installer. Votre crédibilité va augmenter, la confiance des gens va revenir, les clients et les fournisseurs seront à vos côtés. Et c'est seulement une fois que vous avez quelques mesures avec un effet immédiat et que vous en récoltez les résultats, que vous pouvez vous attaquer à des choses plus fondamentales qu'il faut bien sûr faire aussi, mais qui nécessitent un long terme et une continuité. Voilà pour les priorités. Alors bien sûr, la rapidité est clé. Dans les entreprises, on parle des 100 premiers jours. Même en politique, il faut utiliser les 100 premiers jours. Il faut les utiliser peut-être avec une approche exceptionnelle. La Constitution donne la possibilité du 49-3 dans des limites. un référendum est tout à fait possible. Et donc, il y a des possibilités, s'il y a trop d'obstacles pour les 100 premiers jours, d'accélérer le mouvement et donc de s'appuyer tout à fait légalement sur des mesures, sur des mécanismes qui sont prévus par la Constitution. Il faut constituer une équipe de choc. Quand vous êtes dans une entreprise, vous ne prenez pas vos collaborateurs en fonction des mérites qu'ils ont ou de ce que vous pensez peut-être sur leur caractère. Vous prenez des gens expérimentés qui, comme une équipe, fonctionnent et donc qui, dans la composition d'une équipe ministérielle, sont peut-être choisis sur des critères qui ne sont pas tout à fait celles qui prévalent aujourd'hui en France. Vous devez assainir les finances. Je ne vais pas rentrer dans le détail du sujet, mais une entreprise en général n'a pas d'argent, très peu, ce qu'on appelle le cash. Donc il faut trouver plutôt au niveau des dépenses, parfois aussi au niveau des recettes, les moyens pour assainir la situation financière. Vous souhaitez avoir des relations sociales apaisées. Il est clair que dans le cadre du dialogue social, il faut essayer, très difficile en France avec les syndicats, on peut en parler dans un instant en comparant ça un peu à l'Allemagne, de trouver une façon de fonctionner, mais il me paraît indispensable d'avoir les syndicats avec soi plutôt comme une partie de la solution qu'une partie du problème. Très important, il faut dépasser les attentes. Vous n'avez qu'une fois la possibilité de négocier votre calendrier et vos objectifs. Une fois négocié, ça devient votre feuille de route. Il faut le faire de telle manière que vous avez une forte probabilité, dès le premier point de mesure, au bout d'un mois, deux mois, trois mois, d'être en avance sur votre marche, sur votre plan de marche. Ça et les mesures qui produisent les résultats tout de suite rétabliront la confiance. Ils feront que les électeurs, les Français, pensent que vous êtes parti dans la bonne direction et qu'ainsi les choses vont s'améliorer. Il faut avoir Bruxelles avec soi, plutôt. On ne peut pas aujourd'hui, de façon isolée, considérer que la France peut prendre des mesures. Vous êtes forcément, bien sûr, avec les rapports franco-allemands, avec l'Allemagne, mais également avec le reste de Bruxelles, dans une situation où il vaut mieux négocier avec Bruxelles et les avoir avec soi, quitte à exiger certaines choses et certaines contreparties, mais il faut aller avec Bruxelles. Et finalement, il faut peut-être être exemplaire. Quand vous êtes patron d'une entreprise en crise, vous allez avoir une approche modeste, humble, et vous allez, en ce qui concerne les dépenses, par exemple, donner l'exemple pour que vos collaborateurs comprennent et acceptent que vous êtes celui qui donne l'exemple et que malheureusement on est dans une situation de crise et difficile et qu'il vaudrait mieux la suivre. Donc voilà quelques méthodes qui, issues du monde de l'entreprise, peuvent tout à fait aussi être adaptées, je pense, au monde d'un pays, au monde politique. Une deuxième partie du livre regarde quels exemples on peut prendre dans d'autres pays de réforme. Alors, vous me direz que rien ne ressemble à la France, et quand vous êtes dans une entreprise qui fait du pneu, tout le monde va vous dire rien ne ressemble au pneu, et quand c'est du yaourt, rien ne ressemble au yaourt. Ceci étant, en les adaptant au contexte français, surtout en ne pas faisant du copier-coller et en les réinventant à la française et en disant c'est la France qui a inventé ces mesures, ces réformes, il y a un certain nombre de réformes qui pourraient certainement très bien marcher aussi en France. Alors puisque je suis d'origine allemande, on va commencer avec deux, trois choses allemandes. L'Allemagne était dans la fin des années 90 l'homme malade de l'Europe. Beaucoup de gens pensaient que la compétitivité était partie et que c'était un pays qui, avec une démographie fragile et un certain nombre de choses, était vraiment pas au mieux de sa forme. Aujourd'hui, et ça ne sera peut-être pas le cas pour toujours, mais aujourd'hui, l'Allemagne se présente bien avec un chômage quasi inexistant, presque le plein emploi, avec des excédents en termes d'exportation, un budget qui est à l'équilibre, voire légèrement excédentaire. Et donc, en l'espace de 15-20 ans, elle s'est retournée de façon fondamentale. Là-dedans, il y a un certain nombre de choses qui devraient aussi pouvoir se réaliser en la France. Pourquoi l'Allemagne s'est retournée comme ça? Premièrement, parce qu'il y a eu une continuité. On ne peut pas, tous les 5 ans, redéfaire ce que le prédécesseur a fait, commencer avec autre chose dans les 2 ou 3 dernières années de son mandat. L'homme qui a réformé l'Allemagne, c'est essentiellement le chancelier Schröder. D'ailleurs, seulement dans son 2e mandat, et au prix de la non-réélection, réélection, même s'il a échoué de très peu. Mais donc c'est un homme qui a décidé, pendant 10 ans de mandat, de faire un certain nombre de réformes, réformes qui ont été pratiquement toutes reprises, légèrement modifiées, mais pas beaucoup, et amplifiées par Mme Merkel, qui aujourd'hui est à son 3e mandat, et qui, ça aussi ça peut se discuter, briguera peut-être un 4e mandat. Donc la continuité de ces choses-là est clé. Deuxièmement, l'Allemagne a pu s'appuyer, et les chanceliers, sur une large majorité au Parlement. Si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe en Italie, ce qui se passe même en Espagne, il y a une large majorité au Parlement, et en Allemagne, par ce qu'on appelait la grande coalition entre chrétiens et démocrates, donc parti plutôt légèrement à droite, mais très social, et sociodémocrate, parti un peu plus à gauche, mais finalement également du centre, il disposait d'une majorité de 70%, 80% au Parlement. Ça fait monter un peu les extrêmes, mais globalement, il n'y avait pas la moindre question de ne pas réussir ou d'être obligé d'appliquer un 49-3 qu'on a pas en Allemagne. La nécessité pour pouvoir faire voter des réformes au Parlement. Prochaine chose qui aide beaucoup l'Allemagne, ou a aidé beaucoup l'Allemagne dans ses réformes, c'est la décentralisation. L'Allemagne est un pays fédéral, il n'y a pas d'élite centralisée. Quand vous êtes à Munich, quand vous êtes élite, vous appartenez au club du Bayern de Munich et vous avez votre loge. Quand vous êtes à Hambourg, vous avez plutôt, pour le golf ou pour la voile, le club local auquel vous appartenez, mais tout le monde a fait l'université. Donc déjà, il n'y a pas, de centralisation, car entre le Mecklembourg, la Basse-Saxe et la Bavière, il n'y a pas beaucoup de choses en commun. Bien sûr, ils sont tous allemands, ils parlent allemand avec des dialectes, etc. Mais la politique locale a des besoins totalement différents, et on en tient compte. Le policier n'est pas habillé de la même façon, donc il a, dans certains cas il est vert, dans certains cas il est bleu. L'enseignement est régionalisé, donc le bac que vous passez à Munich n'est pas forcément le même bac que vous passez à Hambourg. D'ailleurs, ils ne sont pas cotés tout à fait de la même manière. Et donc vous êtes dans un pays qui est vraiment décentralisé, sans que ceci ait conduit à un surcoût significatif au niveau de l'administration et des frais qui y sont rattachés. Et enfin, ce qui aide beaucoup l'Allemagne, c'est des relations sociales très différentes avec les syndicats, et on dit en général très pragmatiques. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un syndicat unique, par branche, et pas la concurrence de 4-5 syndicats comme en France. Vous avez la possibilité de négocier et de conclure beaucoup de choses au niveau de l'entreprise, ce que j'ai généralement réussi à faire, éventuellement au niveau de la branche, et le syndicat n'intervient que pour des grands accords régionaux ou nationaux, et le délégué syndical est un invité dans l'entreprise. Si le comité d'entreprise fait une réunion d'information pour l'ensemble du personnel, c'est le directeur ou la direction qui parle en premier, parce qu'il faut quand même parler un peu où on en est et quels sont les résultats. Après, c'est le délégué du syndicat qui parle en tant qu'invité, il repart aussitôt après. Et enfin, c'est le comité d'entreprise qui prend la parole en face des différents collaborateurs. Donc c'est des relations qui ont permis de faire beaucoup de chômage technique plutôt que de faire du chômage tout court ou de licencier des gens. C'est des relations qui permettent de confiance, d'obtenir à certains moments une baisse des salaires contre moins de travail en contrepartie de la garantie que 3 ou 5 ans plus tard, quand ça va mieux, les salaires sont réaugmentés et il y a une augmentation de rattrapage. Donc tout ceci n'est possible que si vous avez au niveau du comité central ou au niveau du comité d'entreprise de très bonnes relations avec vos syndicats. Alors certaines de ces choses, à mon avis, seraient également adaptables à la France, peut-être avec un, surtout dans le domaine des syndicats, avec une simplification beaucoup plus de pouvoir et beaucoup plus de possibilités au comité d'entreprise et comité central d'entreprise, mais surtout aussi peut-être comme dans les élections municipales, un seul syndicat qui finalement domine très fortement, s'il y en a un, et qui prend, comme on dit en anglais, the winner takes all, c'est-à-dire c'est lui qui, même avec une majorité de 55%, va faire 95% des délégués, et qui fait que vous aurez seulement après un seul interlocuteur. Alors d'autres pays ont également très bien mis en œuvre dernièrement des réformes qui pourraient nous instruire en France. À la fin des années 90, le Canada a fait une réforme de son administration et qui a fait en 2 ans ou 3 ans une baisse des dépenses publiques de l'ordre de 25%. Le président dans le temps, ou le premier ministre plutôt, avait reconsidéré quel devrait être le rôle de l'État, où l'État peut vraiment faire bien son travail ou ne le peut pas. La performance jugée par les citoyens de cette action de l'État dans différents domaines, avec vraiment une redéfinition du rôle de l'État, et lié à ça, la contrainte pour chaque ministère, pas tous. Probablement dans notre situation actuelle, le domaine militaire ou sécuritaire n'en ferait pas partie, mais de conduire des économies de 20 à 30%, ce qui est forcément une autre façon de fonctionner, une autre façon du rôle de l'État au sein d'un pays. Dernièrement, les pays du Sud, l'Italie et surtout l'Espagne, ont fait des réformes du droit du travail très fondamentaux, allant beaucoup plus loin que la France, et rattrapant la compétitivité au niveau des exportations, des coûts salariaux, etc., au moins au bout d'un certain temps. Là aussi, il y a certainement des exemples à prendre et à voir si ça peut être pas transposé à la France. Prenez aussi le Portugal. Le Portugal, petit pays, et ça ne veut pas dire que ça reste toujours, parce que là, on a vu aux dernières élections qu'ils restaient un peu fragiles, mais ils sont devenus premièrement le paradis des retraités. Beaucoup de Français vont au Portugal avec une réglementation et une fiscalité qui est très avantageuse. La France pourrait très bien faire ça pour les retraités britanniques ou autres. Et surtout, le Portugal a attiré des gens relativement riches, surtout des Chinois, en leur proposant contre un investissement minimal de plusieurs millions d'euros d'avoir une nationalité double, portugaise et chinoise, donc européenne. C'était pas tout à fait prévu par le marché ou par l'Europe de faire le commerce de la nationalité portugaise ou de la nationalité européenne, mais ça a attiré beaucoup d'argent, ça a résolu le problème immobilier au Portugal, et la France, qui a une capacité d'attirer, bien sûr, énormément d'étrangers, pourrait très bien et sans problème mettre en œuvre des mesures un peu similaires. Voilà donc quelques idées, vous en trouverez d'autres dans le livre sur ce que d'autres ont fait, ce qu'on pourrait adapter à la France. Alors j'ai traité à la fin du livre un cas d'école, parce que même si mon rôle n'est pas de prendre position pour telle ou telle réforme, il me paraît difficile de ne pas illustrer ces méthodes et ce qui a marché ailleurs au titre d'un exemple. Et cet exemple, c'est le chômage. En fait, il y a un chapitre intitulé « Vaincre le chômage ». Car il est difficilement imaginable aujourd'hui de faire des réformes en France sans avoir adressé de façon efficace le problème du chômage. Alors sur les 30 ou 40 ou 50 idées qui circulent, parce qu'il y a une longue liste de gauche et de droite pour vaincre le chômage, j'ai d'abord appliqué cette règle dont je vous parlais tout à l'heure. Je les ai classées, je les ai positionnées sur une grille en fonction de l'impact potentiel qu'aurait la mesure pour réduire le chômage. Est-ce qu'on fait une mesure qui apporte 10 000 emplois ou 100 000 emplois ou 300 000 emplois ? Et la difficulté de les mettre en œuvre en termes de résistance qu'on peut attendre de la part des électeurs, qu'on peut attendre de la part des syndicats, qu'on peut attendre aussi de la part des tribunaux ou de Bruxelles, etc. La recommandation qui est faite est de mettre en œuvre 5 ou 6 mesures, en commençant par 2 mesures qui auraient un impact immédiat. Le premier, c'est de remplir les 300 000 postes de Pôle emploi. Alors, il y a du débat si c'est 300 000, 400 000. Et de toute façon, ce n'est pas tous les postes qui passent par Pôle emploi, par une approche plutôt de chasseur de tête que l'approche aujourd'hui utilisée par Pôle emploi. Ça veut dire quoi ? Plutôt que d'accompagner des chômeurs, je cherche des candidats. Quand je suis chasseur de tête et que j'ai un mandat de trouver des candidats pour tel ou tel poste, je cherche. J'essaie de les séduire. Je mets en œuvre des mesures d'accompagnement pour accroître leur mobilité, pour améliorer leurs conditions d'accueil là où ils vont aller, etc. Donc je pense que si on me confiait Pôle emploi avec une approche en plus, avec une incitation au résultat de la part des collaborateurs, nous arriverions dans un délai de 6 à 12 mois de remplir une bonne partie des postes disponibles. Deuxièmement, je préconise de faire marche arrière dans 2 secteurs où on était avec une TVA réduite et où on a augmenté beaucoup la TVA et où on a mis à condition de ressources les incitations, le bâtiment et les services à la personne, ce qui a conduit d'ailleurs par le passé, je pense, essentiellement à augmenter de façon significative de revenir au travail au noir. Car si demain la France pouvait rebénéficier ou faire bénéficier les gens d'une TVA à 5,5, voire peut-être même à 2% ou à 3% dans une certaine période de transition, il y a une demande de logement très importante en France, comme vous savez. Et si on pouvait oublier les conditions de ressources pour les gens qu'on emploie à la maison dans différents domaines, car il vaut mieux que ceux qui emploient sont ceux qui peuvent payer, c'est pas une mesure de redistribution. Je pense que là aussi, on pourrait faire 200 000, 300 000, 400 000 emplois dans un délai assez court. Après les mesures, et basées sur ça, accroître sa crédibilité et dire aux Français, mais ça marche, vous avez bien vu, ça marche, on va dans le bon sens, alors maintenant on va s'attaquer des choses un peu plus difficiles. Parmi les choses un peu plus difficiles, les mini-jobs ou les petits jobs à l'allemande. L'Allemagne a pris le pari de plutôt donner des petits boulots à des gens plutôt que de les exclure progressivement et de plus en plus du marché du travail. Car quand vous avez quelqu'un qui, pendant 2 ans, n'a plus connu un travail stable, il devient extrêmement difficile de le réintégrer après. Et l'Allemagne a préféré des gens qui ont 2, 3, 4 mini-jobs et qui sont payés peut-être un peu moins que le SMIC, mais qui en même temps peuvent cumuler avec des procédures administratives extrêmement simples, plutôt que bon, les syndicats français, j'en ai une discussion avec Laurent Berger de la CFTT, sont pas très favorables à ces mini-jobs à l'allemande. On pourrait peut-être, parce qu'on dit que ça a conduit à un appauvrissement de ceux qui les ont, les orienter davantage vers des industries plus de l'avenir, donc des services à la personne ou du numérique. Mais ça permet quand même, en Allemagne il y avait à un moment donné jusqu'à 2,5 millions de ces mini-jobs, de trouver pour 300, 400, 500 personnes, surtout des chômeurs de longue durée, un retour à l'emploi assez rapidement. Encore un peu plus difficile, préconiser une réforme fondamentale de l'apprentissage. J'ai participé moi-même à un groupe de travail d'un candidat « Comment moderniser l'apprentissage en France ?» Je vous dis, en Allemagne, il y a presque 1 million d'apprentis. En France, on a du mal de dépasser les 300 000, 300, 350 000. Mais parce que ça fonctionne très différemment. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc il y a des préconisations sur l'apprentissage. Et enfin, il y a une préconisation sur le contrat de travail unique ou pas unique, au moins des mesures qui permettent, entre ceux qui sont dedans et qui sont très protégés, et ceux qui sont dehors et qui ne sont pas protégés du tout et qui vont de précarité en précarité, de faciliter un peu la fluidité en arrêtant des CDD et en les remplaçant avec un contrat de travail nouveau, parce que c'est sûr que toutes ces choses-là vont prendre beaucoup de temps. Là, par exemple, 15 à 20 ans, parce que si quelqu'un a CDI et on ne peut pas y toucher aujourd'hui, donc le temps qu'il a son CDI, il va le garder, mais au moins tous les nouveaux contrats de travail pouvaient être d'une autre nature. Donc là, vous voyez dans un exemple relativement concret, si on était pragmatique et si on faisait ça, où on pourrait arriver, au moins à mon avis. Pour conclure, la grande force, je pense, des hommes d'entreprise et peut-être même un peu des gens de mon pays d'origine, c'est de mettre tout sur l'exécution. Tout le monde a des bonnes idées, tout le monde discute, c'est très intéressant, intellectuellement séduisant, mais ce qui compte finalement, c'est l'excellence dans l'exécution. Et si les candidats de 2017 prenaient dans ce livre quelques méthodes, quelques exemples qui ont réussi visiblement ailleurs et qui focaliseraient dès le départ sur l'exécution, je pense que la France, dont certains disent qu'elle n'est pas réformable, d'autres disent qu'elle est réformable que par des révolutions, M. Attali dit ça, mais même Claude Bébéard de AXA pense que c'est très très difficile et peut-être pas autrement. Alors, la révolution s'appelle peut-être le Front National, je ne sais pas, mais j'aimerais quand même éviter, dans la mesure du possible, ce passage évolutionnaire ou plutôt révolutionnaire. Et donc, en utilisant certaines de ces méthodes et en mettant tout l'accent sur l'exécution rapide et efficace, je pense qu'on pourrait s'en sortir pas si mal. Et c'est à cette condition, et seulement à cette condition-là, bien sûr en s'appuyant sur tous les atouts de la France, je ne vais pas les répéter, mais en utilisant une partie de cette approche, que je suis un Allemand qui parie sur la France. Merci beaucoup.